Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important, mais je vais essayer de le résumer très vite. L'ulama, l'istiqra, c'est quoi ? On va lire le Coran, on regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut à travers le Coran. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut de nous. Et c'est ça, en fait, dans le Coran. Vous savez, combien de temps on a commencé, combien de temps après la mort du prophète, on a commencé à compiler la sunna. Vous savez, quelqu'un sait ? Par ceux qui ont suivi les cours. Quand on a commencé à compiler la sunna du prophète, est-ce que quelqu'un sait ? Vous savez quand, non ? À l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz, c'est le cinquième, je crois, le sixième calife des Omeyyades. Donc c'est à peu près 70 ans après la mort du prophète. C'est tard, hein ? Pourquoi ?
Parce que les compagnons commençaient à mourir.
Non. Oui, c'est une des conséquences. Mais pourquoi on a attendu si longtemps ?
Pour éviter le mélange avec le Coran.
Barakallahu fik. Pour éviter le mélange avec le Coran. Parce que le Coran était tellement important pour les compagnons qu'ils ont fait un gros travail sur le Coran. Ils ont compilé le Coran, ils ont fait ce qu'on appelle la voyisation que vous voyez, shakl. Ça n'existait pas à l'époque du prophète. Niqat, les points, ça n'existait pas à l'époque du prophète. En fait, tabayyanu ou la fatathabbatu. Selon que tu mets niqat, c'est tabayyanu ou la tathabbatu. Rasm, il est différent. Ok, mushaf ibn Mas'ud, c'est pas le mushaf de Sayyidina Uthman. Ça n'a rien à voir. Bon, ça, c'est l'histoire du Coran. Mais on reste sur des qira'at, hein, il n'y a pas de... L'ulama bil istiqra, ils vous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu l'islam, quand il a descendu le Coran, les hifz al-daruriyat al-khams. Dans la vie, nous avons cinq grandes nécessités qu'on doit préserver. Écoutez bien. Et ça, tout ça est dans le Coran. Si vous lisez le Coran, si vous analysez le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, il veut préserver les cinq grandes nécessités. Le premier qui a parlé de ça, c'est l'imam al-Juwayni, et c'est l'imam de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. L'imam al-Juwayni, à son époque, qui vivait à peu près avant l'an 1000 de Grégorien, quand il allait à la Mecque, c'était lui l'imam de la Mecque. Et quand il allait à Médine, c'était lui l'imam de Médine, l'imam al-Juwayni. L'élève Ta'ou, Abu Hamid al-Ghazali, l'imam al-Juwayni, il dit, les cinq grandes nécessités, c'est quoi ? C'est Hifdhuddin, Zed, Hifdhun-Nafs, non, le mal même bad. Mazal, il y a un degré, ouais. Tartib. Le nafs, c'est plus important que le mal. Ok ? Hifdhuddin, Hifdhun-Nafs, Zed. Là, un neuf, on l'a dit, le deuxième. Voilà. Le troisième, c'est l'ird, ou l'usra, ou l'nasl. L'ird, l'usra, l'nasl. Quatrième, le mal. Et le dernier, l'aql. Il y en a qui font la. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Hifdhuddin, tu dois préserver le din, tu dois préserver l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam, c'est le cadre qui nous permet de vivre harmonieusement dans une société. Plus profondément, plus explicitement, ça veut dire quoi ? Quand nous avons l'islam, tu ne peux pas te marier avec un autre homme. Quand nous avons l'islam, tu ne peux pas cloner un être humain. En fait, il y a des garde-fous qui sont fil l'islam. Ok ? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'islam, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites quand vous faites du droit. Le droit, c'est quoi ? On vous dit, le droit permet de vivre tous dans une enceinte. On vous trace un cercle quand vous faites du droit. On vous trace un cercle et on vous dit, on est tous dans cette enceinte. Si vous essayez de sortir de cette enceinte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la loi. La loi qui va vous réprimander. Vous allez passer devant monsieur le juge, il va vous réprimander. Et donc, c'est ce qui nous permet de vivre tous en harmonie. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu peux défendre ton din en donnant ta vie. C'est pour ça que le nafs, elle vient après. Les hifz din, pour protéger din et pour... qu'est-ce qu'il faut ? Il faut construire des mosquées, il faut faire la prière. Tu ne peux pas rester dans un endroit où il n'y a pas de... Pourquoi ? Parce que la mosquée, elle crée cette cohésion. Elle crée cette cohésion, elle crée ce tissu social et ce lien social. Alors, il y a Daruriyat, qui est Hifdhuddin, Ou le hajiyat, les besoins. Les besoins, les hirduddin, c'est quoi? C'est créer une mosquée. Bina ou le masajid. Le tahsiniyat, c'est appeler les gens à la prière, l'adhan. Vous voyez? Bon. Hifdhuddin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa'amur ahlaka bis salat, l'amr bil ma'ruf, al-jihad. Tout ça, c'est hifdhuddin. Hifdhu nafs. Wa la taqtulu nafs allati harram Allah illa bil haq. On n'a pas le droit de toucher à l'âme d'un autre, à le nafs d'un autre. Tuer, c'est interdit, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais tuer, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit voilà. Regardez, avant de dire la taqtul an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, l'aya li qablaha sourate al-Isra wa shniya. Sourate al-Isra. Allez. Wa la taqrabu az-zina. Wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. On badha wa la taqtul an-nafs allati harrama. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de zina? Tekallam 'an az-zina qabla al-qatl. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que zina, la fornication, elle va t'amener à ce que la femme soit enceinte, et après on descend le bébé. Vous avez vu? Coran, hein, kalamullah. Il y a des gens qui ne croient pas, mais allez, nous on croit. Nous on croit que c'est kalamullah. Ok? Hifdhun nafs, c'est très important. Hifdhun nafs, min ad-daruriyat, à tel point que hifdhun nafs, il passe avant les obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a une injonction divine, il y a une obligation divine qui te dit qu'il faut jeûner. Ramadan. Et que toi, si tu jeûnes, tu peux mourir parce que tu es malade ou tu as quelque chose. Ben, tu ne jeûnes pas. Et si tu jeûnes, tu commets un péché. Hada wa hifdh an-nafs. Hifdh an-nafs. Écoutez bien, hifdh an-nafs. Vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle, et les lois ne sont pas venues comme ça. En France, il y a ce qu'on appelle l'AME. L'AME, vous savez ce que c'est? C'est l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, les politiques, ils la sortent comme ça, ça nous coûte 800 millions et tout. Ok, 800 millions par an. Pourquoi en France, on a fait l'aide médicale d'État? On l'a fait pour qui? On l'a fait pour les gens qui sont sans papiers. D'abord, ça nous permet de recenser les sans-papiers. Mais le premier but, c'était pas de recenser les sans-papiers. Le premier but, c'était quoi? De protéger la société. Pourquoi on protège la société? Comment on protège la société? Imaginez quelqu'un qui est sans papier, qui vient clandestinement en France et qui est malade. Mais il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas d'argent pour aller se soigner. Et qui porte une maladie contagieuse. Il va transmettre sa maladie à toute la société. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Soigner un ou soigner 4 millions? Soigner un. Hadi yahfidhun nafs. Vous voyez? Wada, l'islam, il en parle de ça. Depuis Abu Hanifa. 150 de l'Hijr. Alors l'islam, ayyuha l'ikhwa. C'est ça notre islam. Hifdhun nafs, c'est ça. Après, le troisième élément, hifdhul mal. Fi hifdhul mal, le vol est interdit. Le dol est interdit. Le bay', il y a des conditions fil bay'. Tu ne peux pas vendre n'importe quoi. Tu ne peux pas vendre le haram. Tu ne peux pas pratiquer le riba. Tu ne peux pas avoir le jahala. Le jahala, c'est. L'ignorance, quelque chose que tu ignores dans le produit. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas vendre, par exemple, tu vas, il y a des conteneurs dans un port et on te dit, tu donnes un prix, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le conteneur. Tu ne peux pas vendre ou acheter ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas dire, allez, je vends ça, tu donnes ce que tu veux. L'islam, non. Je fixe le prix. Ça, c'est 1 euro. C'est 10 euros. Tu achètes, tu veux donner plus, tu donnes plus. Mais tu ne peux pas dire, je vends, tu donnes ce que tu veux. Non, il faut fixer le prix. Il y a des règles dans l'islam. Tu ne peux pas pratiquer le riba dans le bay'a. Tout ça, c'est des règles financières. Bon, je reviens à l'usra, qui est le troisième élément. L'usra, il n'y a pas quelque chose de très détaillé dans le Coran comme la famille. Il n'y a pas quelque chose d'aussi détaillé qu'il y a l'usra. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'éducation des enfants. Il nous parle d'éducation depuis le mariage, depuis le divorce. Vous savez qu'une femme qui est divorcée, elle a des délits de viduité. Lesquels? Vous les connaissez? Une femme normale, une femme qui est dans le bel âge et qui est divorcée de son mari. Combien elle doit attendre pour quitter son mari? Trois cycles, barakallahu fik. C'est 3 mois et 10 jours. Une femme qui a perdu son mari, quel est son délit de viduité? 4 mois et 10 jours. Je suis 40. 4 mois et 10 jours. Pourquoi 4 mois et 10 jours?
S'il y a un bébé,
S'il y a un bébé, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est bien. Lui porte le nom du défunt, mais il y a aussi des conséquences autres. C'est quoi? L'héritage. Barakallahu fik. On ne partage pas l'héritage. C'est bien. Et pourquoi on attend 4 mois alors? Parce que physiologiquement, la femme, elle change au bout de 4 mois. Et vous allez me dire, on fait un test de grossesse, on peut savoir. Oui, mais l'islam est universel. L'islam, il vient pour la terre entière. Tu peux faire un test de grossesse en France, mais tu peux vivre en Amazonie. Il n'y a pas de test de grossesse en Amazonie. Et en Amazonie, si tu es musulman, une femme qui a perdu son mari, pour se remarier, il faut qu'elle attende 4 mois et 10 jours. Il y a même, vous savez, les globules rouges, ça, c'est une explication que certains donnent. Les globules rouges ont un temps de vie de 120 jours, 4 mois. Et on vous dit, au bout de 4 mois, la psychologie enfin, de la femme change. Elle n'acceptera pas, enfin, en elle, elle n'acceptera pas de vivre avec un autre homme avant 4 mois. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, c'est... Donc l'usra, Allah subhanahu wa ta'ala a développé. Développer l'usra, vous ne pouvez pas imaginer. Al-mawarith, regardez, on arrive. Al-mawarith, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement épineux, c'est tellement difficile... Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait le mawarith? C'est lui qui a décidé de définir les parts de chacun. Il a passé la sunna décidée. C'est lui. Et on vous dit, al-shari'a, regardez bien, al-shari'a, la loi musulmane, la législation musulmane, regardez, ça c'est Shafi'i qui dit ça, elle globalise ce qui est changeant et elle détaille ce qui est immuable. Ushmana. Sharia, elle détaille tout ce qui va, ce qui ne bouge pas. Mais elle globalise ce qui va changer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa amruhum shura baynahum ». Celui qui sont concernés par l'affaire, Allah subhanahu wa ta'ala, elle pratique la shura. On est des membres de la mosquée, pratique la shura entre nous, les musallines. On n'est pas obligé d'aller demander les gens qui sont en Italie ou les gens qui sont dans le sud de la France. On est là à Paris, voilà. On demande, les gens, voilà, si on fait des élections syndicales dans la société, les gens qui sont en dehors de la société, si on fait des élections en France, on ne demande pas l'avis des Norvégiens ou des Africains, on demande aux Français. Voilà. Amrohum shura baynahum. Amrohum, ladhi yahmuhum al-amr. Bon, maintenant, comment on fait les élections? Chaque pays, chaque tribu a sa propre. Il y a le suffrage universel en France, mais aux États-Unis, il y a les grands électeurs. Ce n'est pas la même chose. Bon. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, la mère, elle touche un tiers si le défunt n'a pas d'enfant. Et si le défunt il a des enfants, elle touche un sixième. Ça ne changera pas jusqu'à la fin des temps. Et si quelqu'un veut changer, il yu'lin al-harb ala Allah. Il déclare la guerre à Allah. Quand quelqu'un décide de ne pas donner l'héritage que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé pour chacun, yu'lin al-harb ala Allah. Alors vous voyez, donc l'héritage, talaq, zawaj... L'allaitement des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'allaitement. Wal walidatu yurdhina awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yatimadda ar-radha'a. Qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il interdit zina, il interdit la fornication, il interdit la calomnie. Quelqu'un qui calomnie, la taqbalu lahum shahadatan abada. C'est-à-dire quelqu'un qui a calomnié, il vient assister à un mariage, il y a deux témoins et lui il fait partie des témoins du mariage. Le mariage est vicié, il faut le refaire. Vous avez vu notre islam, comment il est, les rois? L'islam, c'est pas un rituel. Je viens, je fais ma salat et je m'en vais à la maison. Et après, dès que je sors de la mosquée, je fais autre chose, je fais les 400 coups. Là, badan. Ça gère ma vie. Et il n'est jamais incompatible de vivre dans une société qui ne pratique pas l'islam. Jamais, jamais, jamais. Il y a les lois du pays et il y a les lois de l'islam. Je respecte les deux. Et je n'outrepasse jamais les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus.